Aujourd'hui, en fait, je vais essayer de vous parler des problèmes de séparation de phases, et en particulier de modèles où l'idée de renormalisation apparaît de manière particulièrement nette. Donc, ça, quand on va regarder des modèles de plus en plus simplifiés, on va voir que cette idée apparaît de manière assez naturelle. Alors, de quoi s'agit-il? La séparation de phases, eh bien, elle se produit dans beaucoup de situations physiques. Par exemple, si vous prenez un mélange binaire de l'eau et de l'huile que vous remuez, vous allez mélanger les deux phases, et petit à petit, vous allez voir les deux phases se séparer, les gouttes d'huile augmenter, les régions où il y a de l'eau vont être de plus en plus pures. En fait, avec... Donc, on va voir cette séparation de phases qui va se produire dans ces mélanges. Une autre situation, il y a beaucoup de situations où ça apparaît, donc dans les mélanges binaires, comme l'huile-eau. Quand vous refroidissez un liquide, on a déjà vu qu'il y a une courbe température-densité, avec cette forme-là, et à gauche, il y a le gaz, à droite, il y a le liquide, et quand on passe d'une température haute jusqu'à une température plus basse, eh bien, le système dans cette région et l'équilibre correspond à avoir une coexistence entre la phase liquide et la phase gazeuse. Mais si vous regardez la dynamique, ça ne va pas se produire instantanément. Donc vous allez passer d'une situation homogène qui petit à petit va montrer une séparation entre le liquide et le gaz. Et selon l'endroit où vous allez vous trouver, eh bien, il va y avoir, si vous êtes de ce côté-là, il va y avoir un tout petit peu de liquide qui apparaît. Par exemple, c'est ce qui se passe dans le phénomène de rosée. Vous avez essentiellement une vapeur d'eau et puis quelques gouttes de liquide. Si vous êtes de ce côté-là, vous allez avoir quelques bulles de gaz. Et puis, en général, au milieu, vous allez avoir une espèce de mélange qui petit à petit va se séparer. Alors, ces problèmes de séparation de phase se produisent aussi dans des systèmes magnétiques. Dans les systèmes magnétiques, au-dessus d'une certaine température de Curie, si vous prenez un système qui est ferromagnétique à basse température, à haute température, il n'a pas d'aimantation. Si vous refroidissez, localement, il va apparaître une aimantation dans des domaines, et petit à petit, ces domaines vont essayer de s'orienter de manière cohérente les uns par rapport aux autres et vont se mettre à grandir. Donc, vous allez avoir ce phénomène de séparation de phase qui va se produire. Alors, quelques autres exemples. Un polycristal, si vous refroidissez un corps pour qu'il se cristallise, eh bien, localement, les directions du réseau cristallin vont être choisies de manière un petit peu au hasard, peut-être à condition de faire ça, de refroidir de manière suffisamment homogène pour que la température soit à peu près constante. Donc localement, une direction des axes du réseau cristallin va être choisie, et puis à côté, il va y avoir une autre direction, et ainsi de suite. Et donc, vous allez avoir des régions, ce qu'on appelle un polycristal, et petit à petit, si vous essayez d'équilibrer le système, si vous attendez longtemps, ou si vous faites un recuit en réchauffant un peu, de façon à permettre aux parois de domaine entre les régions cristallines de se déplacer, vous allez avoir un cristal qui va, des tailles de régions qui vont augmenter de plus en plus. Un dernier cas dont je veux parler, c'est les problèmes d'alliage, pour lesquels, en fait, les modèles dont il va être question un peu plus tard sont particulièrement bien adaptés. Donc, un alliage, vous savez, c'est un mélange de plusieurs métaux. Par exemple, le bronze, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Et ce qui, dans des bons alliages, les atomes d'une espèce sont positionnés de manière régulière. Donc, il y a une cellule, et dans chaque cellule, il y a de manière régulière la position des atomes d'un type et les atomes d'un autre type. Quand vous refroidissez, eh bien, à haute température, les atomes des deux espèces chimiques vont être situés à des positions plus ou moins au hasard. Et puis, quand vous refroidissez, eh bien, l'état fondamental correspond à un arrangement régulier de ces atomes. Et donc, petit à petit, vous allez voir croître des régions où il y a un certain ordre, où il y a une certaine régularité dans la position des atomes. Donc ça, c'est beaucoup de situations où on voit apparaître cette séparation de phase avec des domaines qui se déplacent et qui croissent au cours du temps. Alors, ce qu'on voudrait faire, si on veut, par exemple, décrire cette séparation de phase entre un gaz et un liquide, en fait, on voudrait, a priori, partir d'une description microscopique, c'est-à-dire considérer une énergie de la forme énergie cinétique des particules plus énergie potentielle. Alors, peut-être vous vous souvenez que si vous regardez juste des questions d'équilibre, en fait, la masse des particules n'intervient pas. C'est-à-dire, quand vous prenez un gaz parfait, par exemple, peu importe l'espèce chimique, la loi est la même, il n'y a pas, la masse des molécules n'intervient pas, même si le gaz n'est pas parfait, à l'équilibre, les propriétés ne dépendent pas de la masse. Évidemment, dès que vous allez regarder des propriétés dynamiques, il va y avoir des problèmes d'inertie, les problèmes d'advection, d'hydrodynamique, etc., qui font que ce phénomène est assez compliqué, est plus compliqué que ce qui se passe, par exemple, dans le cas des alliages ou dans des cas de magnétisme. Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire ici, c'est je vais essayer de vous introduire une suite de modèles de plus en plus simples et qui, malgré tout, à chaque étape, possède des questions qui soulèvent des questions intéressantes, et donc je vais essayer de les décrire. Alors, le modèle le plus simple, donc il y aura deux types de modèles dont je vais parler, des modèles microscopiques et puis mésoscopiques ou macroscopiques, c'est-à-dire où on regarde les choses déjà, même le point de départ est de regarder les choses à grande échelle. Donc, le modèle le plus simple, on l'a déjà rencontré, c'est le modèle d'Easy. Donc, vous imaginez un réseau régulier, et sur chaque site du réseau, vous avez une variable SI qui vaut plus 1 ou moins 1, qui va vous dire si un site est occupé par une particule ou vide. Ça va être un modèle de fluide. Mais le même modèle va... peut décrire un système magnétique, comme on l'a vu, en disant que si la variable SI sur le site I vaut plus 1, ça va correspondre à une aimantation qui a une certaine direction. Par exemple, dans le fer, il y a des directions privilégiées, donc il pointe dans la direction privilégiée du fer dans un sens, et puis si ça vaut moins 1, il pointe dans cette direction privilégiée dans le sens opposé. Donc ça, c'est dans des cas de magnétisme. Alors, déjà à ce stade, on a vu, un peu comme tout à l'heure, que l'équilibre, finalement, va être exactement le même. On va avoir une énergie et l'équilibre va être exactement le même pour ces deux systèmes. Quand on s'intéresse à la dynamique, il va y avoir une différence importante parce que des spins, dans le cas de magnétisme, peuvent se retourner de manière sans difficulté, si vous voulez, un spin, si on y applique un champ magnétique ou s'il y a de l'agitation thermique, ça lui permet de se retourner, alors que dans un fluide, les particules ne peuvent pas apparaître ou disparaître. Donc, une variable SI peut ne pas être conservée si on s'intéresse à un problème de magnétisme, elle peut changer localement. La variable SI pour un fluide, elle ne peut pas changer. La seule chose qui est possible, c'est qu'une particule de fluide se déplace un peu sur un site voisin. Pareil, dans le cas d'un alliage, si vous avez un alliage, eh bien, il y a des atomes d'un certain type qui vont correspondre à la variable plus 1 et d'un autre type qui correspond à la variable moins 1. Et donc, la seule possibilité, c'est un échange entre deux sites voisins qui échangent la nature des atomes qui les occupent. Bon, donc, il faut bien distinguer. Donc, il y a deux types de dynamique qu'on peut prendre pour ces modèles. Et la première, c'est ce qu'on appelle la dynamique de Glauber. Et donc, cette dynamique, ça va être une qui est adaptée aux des problèmes de magnétisme. Elle ne conserve pas le spin total. Donc, le paramètre d'ordre est non conservé. Et cette dynamique, elle consiste à faire la chose suivante. Donc, c'est très, très facile à mettre en œuvre dans une simulation numérique, par exemple. On choisit un spin au hasard, un site au hasard. Et on actualise ce spin. Donc, quand on passe de l'instant t à l'instant t plus 1 sur n, eh bien, la valeur du spin i qui a été choisi, un site i a été choisi au hasard. La valeur du spin en question qui a été choisi au hasard, eh bien, est modifié de la manière suivante. En fait, on décide de lui donner la valeur plus 1 ou moins 1 avec une probabilité qui est égale avec à 1 plus tangente hyperbolique de bêta HI de T sur 2. Et avec, il vaut moins 1 avec une probabilité qui est 1 moins la tangente hyperbolique de bêta HI de T sur 2, où HI de T est le champ que ressent le spin en question. Donc, si on a une énergie pour un modèle comme le modèle d'Ising, qui est donné par E égale moins J somme sur les voisins de SJ, SISJ, eh bien, le champ HI à l'instant T, c'est juste le champ dû au voisin du spin. Donc, à chaque instant, si vous voulez faire une simulation, à chaque instant, vous mesurez le champ local ressenti par le spin I, et vous l'actualisez de cette manière. Et ça, c'est la dynamique de Glauber. Et elle a la propriété importante de satisfaire ce qu'on appelle le bilan détaillé. Et donc, on sait que si on laisse un système évoluer pendant très longtemps avec cette dynamique, il va atteindre l'équilibre avec les configurations sont pondérées par les poids de Boltzmann. Bon. Donc, a priori, quand on veut faire une simulation de ces problèmes de croissance, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on part d'une condition initiale complètement aléatoire qui correspondrait à une situation de haute température. Les spins sont mis n'importe comment. Et puis, on laisse évoluer de cette manière. Et ce qu'on va voir, si on fait des simulations de ce genre-là, je vais le montrer dans un instant sur des choses que vous avez dans les mains, eh bien, on voit apparaître des domaines qui vont croître au cours du temps. Donc la question, c'est d'essayer de comprendre la façon dont ces domaines augmentent au cours du temps. Alors, la simple dynamique de Glauber, donc, qui est très facile à mettre en œuvre, en fait, elle implique que l'évolution... Donc si on regarde la valeur moyenne du spin à l'instant T plus 1 sur N, j'ai mis 1 sur N avec l'idée que chaque spin est actualisé une fois par unité de temps, donc c'est pour ça que c'est comme ça, j'ai mis ainsi, ben, vous regardez l'évolution d'un spin au cours du temps, vous allez trouver que ça vaut tangente hyperbolique de bêta somme sur les voisins de I de SI à l'instant T moins SI. C'est juste une traduction de ce qui est écrit à gauche. Ça va contrôler, ce genre d'équation va contrôler l'évolution de l'aimantation de n'importe quel site I, et donc on se donne la condition initiale. Et on pourrait se dire, c'est pas très compliqué, mais en réalité, cette équation, c'est pas la peine d'essayer de la résoudre, elle est très dure à résoudre. Et une des raisons pour lesquelles elle est très dure à résoudre, c'est que les spins qui apparaissent ici vont commencer à être corrélés. Donc là, il faudrait en fait connaître toutes les corrélations pour essayer de faire un calcul avec ça. Et en particulier, vous voyez que si j'attendais très très longtemps, le système va s'équilibrer. Et donc résoudre ce genre d'équation, par exemple, me permettrait de connaître, de calculer exactement l'aimantation d'un système, ce qu'on ne sait pas faire pour le modèle, par exemple, d'Ising à trois dimensions. Donc cette équation qui n'a pas l'air méchante, en fait, elle cache beaucoup de choses, elle est trop dure pour être comprise. Alors ça, c'est la dynamique de Glauber. Donc dans la dynamique de Glauber, si je veux faire une petite image de ce qui se passe, eh bien, quand vous actualisez, vous avez une certaine configuration, par exemple comme celle-là, et puis la dynamique va retourner un spin, c'est-à-dire que le spin du centre va changer d'état, peut changer d'état ou ne pas changer d'état selon qu'on a choisi la première ou la deuxième ligne, mais vous voyez que le nombre de particules n'est pas conservé. Alors l'autre dynamique qui conserve le nombre de particules, c'est ce qu'on appelle la dynamique de Kawasaki. Et alors cette dynamique, elle va faire des mouvements qui vont conserver localement le nombre de particules. Les particules peuvent bouger, comme les atomes à l'intérieur d'un alliage. Bon, un atome de cuivre peut sauter ou s'échanger avec un atome d'étain, si vous voulez, mais il le fait localement. Ce n'est pas qu'il disparaît à un endroit et il réapparaît à l'autre bout de l'échantillon. Donc les dynamiques de Kawasaki consistent à autoriser des mouvements où les particules vont se déplacer localement. Donc typiquement, il va y avoir des mouvements de ce genre. Donc la particule du centre a sauté d'un site vide à un site occupé, ou bien si c'était deux types d'atomes, on a eu un échange entre les deux types d'atomes. Et donc là, le paramètre d'ordre est conservé. Et la probabilité de le faire, en fait, dans toutes ces, dès qu'on étudie des modèles de ce genre, ce qu'on veut, c'est surtout que le système, au bout d'un temps très très long, puisse s'équilibrer. Donc, si l'énergie de cette configuration A, c'est EA, et l'énergie de la configuration B, c'est EB, eh bien, chaque fois qu'on va actualiser, par exemple, ce lien entre les deux sites voisins, eh bien, la nouvelle configuration, à l'instant T plus delta T, qui peut être 1 sur N ou quelque chose comme ça, ça va être A ou B, avec une probabilité qui est E puissance moins bêta l'énergie EA sur E puissance moins bêta l'énergie EB plus E puissance bêta l'énergie EA. Et ici, on échange A en B. Et donc ça, c'est une dynamique qui va conduire à l'équilibre. Et donc, c'est aussi très facile à mettre en œuvre. Alors, donc, ces phénomènes de croissance de domaine donc, sont très faciles à simuler. Et donc, dans ce qui a été distribué, vous avez un certain nombre d'exemples de résultats de simulation. Dans les trois premières pages, donc, le plus moche dessin, en fait, c'est moi qui l'ai fait il y a quelques années, mais les autres, je les ai piratés sur Internet. Donc, ce que vous voyez là, c'est les trois premières pages, vous voyez la mise en œuvre d'une dynamique de Kawasaki à suffisamment basse température et à des temps différents. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si vous regardez le même système à des temps différents, en fait, à chaque instant, il a l'air d'être un agrandissement de ce qu'on voyait à l'instant précédent. Donc, on a l'impression de toujours voir la même image, mais ces images ne sont pas obtenues l'une de l'autre par un agrandissement, elles sont simplement obtenues l'une à partir de l'autre en attendant plus longtemps, en laissant le système évoluer plus longtemps. Alors, vous voyez ces structures qui ont l'air compliquées, et une des questions, c'est de se dire comment ces structures évoluent, qu'est-ce qu'il y a de simple dans leur évolution. Est-ce qu'on peut comprendre déjà, par exemple, comment la taille des structures que l'on voit augmente au cours du temps? Vous voyez sur la page 3 aussi que les structures que vous allez observer vont dépendre de la densité avec laquelle vous partez. Donc si, initialement, vous avez des densités assez comparables, à peu près moitié-moitié, vous allez obtenir ces espèces de courbes avec des méandres, cette frontière qui a l'air d'être très compliquée. Si, au contraire, vous partez avec une situation où une phase est très minoritaire, là, par exemple, il y a peu de particules et beaucoup de trous, vous allez observer des gouttes, un peu comme quand vous voyez des gouttes dans un nuage. Bon, le problème des nuages est plus compliqué. Comme tout à l'heure, je vous disais, il y a des questions d'advection qui se produisent. Mais une des questions, c'est de se dire comment cette taille augmente. Quelle est, par exemple, la distribution des tailles des gouttes? Et toutes ces questions ont été étudiées, et je vais essayer d'en parler un peu. Alors, si vous prenez, c'est le cas de la page 4, si vous prenez le cas d'une dynamique de Glauber, eh bien, vous avez le même phénomène avec des images qui ont l'air assez différentes malgré tout. Donc, vous voyez encore une fois au cours du temps que les domaines augmentent, mais sous une forme différente. Et la dernière image qu'on voit, page 4, par exemple, on a l'impression que la phase blanche est en train de gagner. Et si on dessinait un temps suivant, disons, on prenait deux fois plus longtemps, probablement qu'on verrait juste un carré blanc parce que la phase noire a disparu. Mais ça, c'est juste dû au fait que le paramètre d'ordre n'est pas conservé. Alors, on peut mesurer aussi dans ces simulations des choses de manière relativement facile. Par exemple, si on prend la dynamique où le paramètre d'ordre n'est pas conservé, eh bien, on peut mesurer l'énergie, donc c'est ce qui est montré dans une des courbes. Enfin, il y a plusieurs quantités qui sont montrées là, mais par exemple, vous pouvez prendre l'énergie E de T. Donc, c'est cette courbe, ce qui est page 5, elle est faite à température 0. Donc, on prend cette évolution. Et température 0, c'est simplement que chaque site regarde son entourage et se décide de pointer dans la direction de son entourage. Et si il a deux voisins plus et deux voisins moins, et ben il va tirer au hasard, il va aller avec probabilité égale pour décider avec probabilité égale de devenir plus ou devenir moins. Donc, si vous faites cette évolution à température zéro, bien l'énergie, c'est simplement la longueur de toute la frontière. Et donc, puisque la frontière, c'est juste les endroits où les spins voisins ne sont pas parallèles, et donc cette énergie décroît au cours du temps, et la façon dont elle décroît permet de se faire une idée de la façon dont les tailles de domaine augmentent, et le résultat que l'on obtient quand la dynamique est non conservée, c'est que la taille des domaines augmente en t puissance 1/2. Donc, je vais essayer de vous montrer ça par des arguments relativement simples. Mais avant de le faire, je voulais juste aussi vous faire voir ces figures qui apparaissent page 6, 7 et 8, où au lieu de prendre une dynamique de Glober ou une dynamique de Kawasaki pour des spin dizzying, en fait, la dynamique choisie, c'est le même genre de dynamique. Enfin, c'est une dynamique de type Glober, mais pour des spins qui prennent Q valeur, le modèle de Potts, à Q état. Alors, et c'est fait dans le cas Q grand. Donc, Q grand, c'est censé représenter la formation, par exemple, d'une mousse ou d'un polycristal. Un polycristal, localement, il va s'orienter dans une direction. Et il y a beaucoup de directions possibles. Il y a énormément de directions possibles dans lesquelles il peut s'orienter. Donc, les différents états du modèle de Potts sont censés représenter un peu toutes les orientations possibles de ce polycristal à un instant donné. Et donc, vous voyez, de la même façon, croître les domaines en observant toujours des figures qui sont autosimilaires. Et ça, c'est vraiment l'image de la renormalisation. On regarde un système à des temps différents, et si je fais un changement d'échelle, eh bien, je revois le même système. Hein. Donc, changement d'échelle et changement de temps reviennent au même. Alors, bon, j'aime bien cette figure expérimentale sur des bulles qui est due à Joël Stavans de l'Institut Weissmann, qui ressemble vraiment, si j'ose dire, comme une goutte d'eau à ce que vous obtenez dans les simulations. Et puis, il y a aussi cette jolie figure que j'ai trouvée sur Internet sur la formation, un modèle, enfin une façon de modéliser des polycristaux à trois dimensions. Donc ils ont fait un choix de couleur qui est assez joli. Bon. Alors donc maintenant je vais essayer de voir comment on peut comprendre ces tailles de domaine qui augmentent en t puissance 1/2, comment on peut comprendre la statistique des tailles de ces bulles. Et quels outils on peut utiliser. Et en fait, c'est un problème en soi qui n'est pas facile, mais il y a une approche qui est semi-macroscopique, qui repose sur l'équation de Ginzburg-Landau. Et cette équation de Ginzburg-Landau, elle apparaît aussi dans la théorie des phénomènes critiques, et je pense que la prochaine fois, je discuterai davantage l'aspect lié aux phénomènes critiques. Donc, l'équation de Ginzburg-Landau, c'est d'imaginer qu'on moyenne sur des régions d'espace. Donc, au lieu d'avoir des spins qui valent plus 1 ou moins 1, on imagine qu'on a un champ qui va moyenner un peu ces spins sur une région suffisamment grande. Donc, le phi, c'est censé être les sommes des SI, I dans un petit domaine D, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et d'essayer de voir comment ce phi évolue. Et l'équation de Ginzburg-Landau va l'écrire sous cette forme-là, d sur dt égale laplacien de phi, bon, je l'écris sous cette forme, moins v' de phi, et là, v de phi, typiquement, c'est 1 moins phi carré au carré sur... Bon, je mets 4, ici, c'est juste une question de normalisation, et donc, c'est la forme laplacien de phi plus phi moins phi 3. Et donc, vous imaginez que maintenant, vous êtes dans un espace continu. On pourrait aussi l'écrire sur un réseau, si on a envie, en mettant le laplacien discrétisé. Et regardez l'évolution d'un champ selon cette équation. Cette équation est déterministe, mais il y a quelque chose d'aléatoire dans le problème. C'est phi à l'instant 0 qui va être aléatoire. Donc, on se donne une valeur aléatoire au départ, c'est ce qui correspond à un mélange, ce qui se passe à très haute température, il y a une espèce de mélange entre les deux phases, et puis on laisse évoluer et on demande de voir qu'est-ce qu'on va obtenir au bout d'un temps long. Donc, encore une fois, l'évolution est déterministe. Alors, la première chose que vous pouvez... alors peut-être avant de dire des choses sur les conséquences de cette équation... Une façon d'y arriver, c'est de faire des approximations à partir de cette équation exacte. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'évolution des spins est donnée par cette équation où on n'a fait aucune approximation dans le cadre de la dynamique de Glauber. Mais malheureusement, cette équation, elle est trop compliquée. Alors, une façon de la simplifier, c'est de faire une approximation de champ moyen. Et le champ moyen, c'est de dire, ici, le spin s'oriente dans le champ de ses voisins, mais au lieu de prendre ce champ, il fluctue au cours du temps, au lieu de considérer ce champ fluctuant, je remplace cette équation par tangente hyperbolique de bêta, somme de j voisin de i, s j de t. Et donc, je remplace la moyenne du tangente hyperbolique par la tangente hyperbolique de la moyenne. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une approximation de champ moyen. Et maintenant, vous pouvez vous dire, bon, bah, tant pis, le problème de départ est peut-être un peu trop dur, je m'intéresse à ce problème de champ moyen, c'est-à-dire l'évolution de SI. Donc maintenant, sur chaque site, j'ai une seule variable, SI. Je m'intéresse à l'évolution de ce CSI au cours du temps, en m'étant donné des valeurs aléatoires au début, et vous pouvez vous intéresser à la croissance des domaines. Alors ça, si vous imaginez que les SI varient lentement dans l'espace, eh bien, ça va vous faire intervenir, vous allez voir d'abord bêta, somme des S qui vont pratiquement tous être les mêmes, donc ça va être une fonction de phi non linéaire, et puis si vous considérez que ça varie lentement dans l'espace, vous allez obtenir un laplacien qui va intervenir. Donc, vous allez arriver à grande échelle, au temps long, à une équation qui est de ce type, qui va beaucoup ressembler à celle-là. Peut-être que le V de phi ne va pas être exactement le même, mais ça ne changera pas grand-chose. Peut-être qu'il y aura un petit coefficient ici qui ne va pas changer grand-chose, mais vous allez arriver à une équation de ce type. Alors, cette équation de Landau-Ginzburg, elle, la première chose, c'est que elle est déjà le phi va avoir quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire, si vous voyez une image, eh bien, au cours du temps, cette image va évoluer, mais vous n'allez jamais revenir sur une image qui a déjà été vue, donc qui est bien ce qu'on voit, c'est-à-dire cette espèce de grossissement indéfini. La seule chose qui peut se produire, c'est que la dynamique asymptotiquement s'arrête, et donc on est des solutions de cette équation avec le membre de gauche égal à zéro. Alors, pour voir que c'est irréversible, eh bien, c'est un petit calcul qui est facile, que je vais juste indiquer. Donc, première chose, c'est l'irréversibilité. Et l'irréversibilité, en fait, peut se voir, comme c'est souvent le cas quand on regarde des équations de ce type, en introduisant ce qui s'appelle une fonction de Lyapunov. Alors, c'est-à-dire vous allez introduire une fonction, et cette fonction, vous allez voir qu'elle décroît de manière monotone, et donc ça vous dit que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors, dans le cas présent, la fonction de Lyapunov, c'est une intégrale sur l'espace de gradient de phi au carré sur 2 plus v de phi. Et puis, sur tout l'espace. Hein. Donc, vous intégrez cette quantité sur tout l'espace. Bon, si vous le faites, par exemple, à deux dimensions... Enfin, si vous faites ce calcul, c'est-à-dire vous regardez dψ sur dt, bon, ça va faire apparaître des dφ sur dt. Ici, il va y avoir gradient avec un dφ sur dt quelque part. Vous faites une intégration par partie. Hein, peut-être je ne fais pas ce calcul en détail ici, mais qui prend deux lignes. Et vous allez trouver que c'est moins intégrale de gradient de phi au carré d3r. Donc, c'est l'intégrale d'une quantité positive. Enfin, il y a un moins, mais c'est une quantité positive. Et donc, l'évolution est irréversible. Alors, ce qui est plus important, déjà, la première information qu'on voudrait avoir, c'est de dire comment la taille de ces figures augmente au cours du temps. Donc, il va y avoir une espèce de taille caractéristique, et on voudrait... donc, il va y avoir une taille caractéristique, RT, et on voudrait savoir comment elle augmente au cours du temps. Enfin, au moins, c'est ce qu'on voit. Alors, pour ça, ben, ce n'est pas forcément un calcul très facile. Donc, il y a un petit calcul que je vais faire, qui est dans une géométrie un peu particulière, mais en fait, ce calcul, il a été généralisé en fait, par Alan Kahn. Et je vais vous dire ce qu'ils ont montré. Donc, le petit calcul que je veux faire, que j'ai emprunté, en fait, il y a une revue sur ces sujets qui est très intéressante, qui date des années 95, d'Alan Bray, qui m'a permis de retrouver pas mal d'informations importantes, c'est de dire, voilà, on va s'intéresser juste à une situation simple, c'est une seule goutte. Donc on a une goutte qui a cette forme-là, enfin on prend une goutte sphérique, et donc en fonction de la distance au centre de la goutte, eh bien, on va avoir un phi qui va être essentiellement 1, donc hein, les régions où ça vaut 1, eh bien, ça ne bouge pas, les régions où ça vaut moins 1 ne bouge pas, ça c'est les deux phases stables hein, qu'il y a dans le système, donc on prend une région où phi vaut 1, et puis il va y avoir une interface jusqu'à la phase où ça vaut moins 1. Et on se dit, voilà, le phi, on va supposer que le phi est une fonction de R moins le rayon de la goutte à l'instant T. Donc il y a un rayon de la goutte qui est à peu près par là, à l'instant T, et on se dit, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que plutôt que le phi au point X et T, c'est une fonction de R moins RT. Donc c'est une fonction qui va valoir moins 1 ici, près de 0, puis ça va changer de manière un peu brutale quelque part, il va y avoir cette frontière entre les deux phases, et puis là, il y aura de l'autre côté moins 1 jusqu'à l'infini, donc il y a juste une seule goutte, hein. C'est ça, il y a une goutte, il y a un rayon essentiellement R de T, alors il y a un peu de structure autour de ce rayon, et puis à l'intérieur, ça vaut plus 1, à l'extérieur, ça vaut moins 1, puis il y a ce petit raccordement entre les deux phases, et donc on se dit, voilà, imaginons que les gouttes vont croître de cette manière, c'est-à-dire il va y avoir juste le déplacement de cette frontière, et ce F, il est censé représenter ce qui fait le raccord entre les deux phases, plus 1 à l'intérieur et moins 1 à l'extérieur. Donc si on prend ça, et qu'on le rentre dans cette équation, donc ça c'est, bon, là c'est une fonction qui dépend juste du rayon, on le rentre, on regarde, si on ne s'en souvient pas, comment s'écrit le Laplacien en coordonnées polaires. Et on trouve que F seconde plus D-1, où D-1 est la dimension de l'espace, plus F moins F3 égale moins dr de t sur dt fois f'. Donc c'est juste en remplaçant dans l'équation de Van de Ginsburg. Et alors, quand on est là, en fait, donc, quand on est là, ce que fait dans sa revue Alan Bray, c'est de dire, ben, on prend cette équation, on multiplie par f' et on intègre. Donc si on multiplie l'équation par f' et qu'on intègre, le terme f seconde f', il va être une intégrale, une dérivée totale, c'est la dérivée de f' carré. Donc en 0, ça vaut 1, à l'infini, ça vaut 1 aussi. F' carré, ça vaut 0 à l'origine, ça vaut 0 à l'infini, puisque le champ ne change plus ni en 0 ni à l'infini. Donc ça, ça va donner 0. Le terme f moins f cube multiplié par f' aussi, ça va être une dérivée totale. Ça donne 0. Et donc, si on multiplie ceci, ça implique que l'intégrale de f' fois d-1 sur r plus dr de t sur dt. Attendez, excusez-moi, ici, il y a un f' qui apparaît, que j'ai oublié. Il y a un f' fois f' carré dr égale 0. Donc cette équation, elle est exacte. Si j'ai pris un phi de ce genre, l'équation que j'ai écrite est exacte. Il y a juste comme condition que le f et que le f au centre est égal à 1 et à l'infini il vaut 1. Et donc à partir de là, il y a un argument qui consiste à dire bien la région sur laquelle le champ varie est petite. Est petite par rapport à RT, donc c'est une petite région, donc les R dans cette région, ils valent essentiellement RT, et donc si je veux que ceci vaille 0, l'endroit où F' est non nul, c'est près de l'interface, et donc pour que ça vaille, le résultat vaille 0, il faut que essentiellement ceci vaille 0 quand petit r est égal à RT, puisque petit r va être près de RT, c'est le seul endroit où F' carré est non nul. Donc ça donne que dr t sur dt égale moins d-1 sur rt, en disant que les r qui sont près de cette interface sont proches de rt. Et donc ça implique que d de rt carré sur dt est d'ordre 1, et donc ça implique que le rayon augmente ou diminue, enfin se comporte en racine de t, si vous voulez. Donc les rayons de cette bulle va être d'ordre racine de t au cours du temps. Bon. Alors, en fait, ceci est. C'est un exemple basé sur. Qui repose sur l'équation de Ginsburg-Landau, mais en réalité, Alan Kahn. Obtenu, et ça peut s'obtenir à partir de cette équation en faisant des choses un peu plus compliquées, quelque chose qui va donner la dynamique de ces interfaces. Donc, c'est ce qui est dû à Alan Kahn qui est dans les années 70. Et donc, si vous prenez cette équation de Ginsburg-Landau, en fait, imaginez que vous voulez le faire sur un ordinateur, eh bien, c'est pas très pratique, c'est pas optimal dans le sens où, au cours du temps, le phi va valoir soit 1, soit moins 1, presque partout. Et donc, il y aura quelques interfaces qui vont se déplacer, mais au point de vue du travail que va faire votre ordinateur, il va essayer de résoudre ces équations partout. Donc, en fait, il va perdre énormément de temps dans les régions où il ne se passe rien. Et donc, Alan Kahn, en fait, ils sont arrivés... On peut l'obtenir à partir de Ginsburg-Landau en essayant de regarder juste ce qui se passe sur les interfaces. Et donc, vous allez avoir à un certain moment des domaines de ce genre. Et le résultat de Alan Kahn, c'est de dire qu'on peut simplement se concentrer sur ces parois de domaine et que ces parois de domaine vont avoir une vitesse qui va être proportionnelle au rayon de courbure. Donc localement, s'il y a une interface qui est droit, eh bien, il ne bouge pas. Et puis s'il est courbé, bah, il va avoir tendance à bouger selon le rayon de courbure local. Et donc ça, c'est un problème en soi, qui est un nouveau problème, qui n'est plus Landau-Ginzburg, avec une condition initiale, c'est d'imaginer que vous avez des domaines dont vous connaissez la frontière, et vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe si maintenant ces frontières se mettent à bouger, simplement avec une loi qui est que la vitesse est proportionnelle au rayon de courbure. Alors, ce qu'ils ont, une façon de le faire, que je ne vais pas faire ici, mais que, par exemple, vous pouvez trouver dans l'article d'Alan Bray, c'est de partir de l'équation de Ginzburg-Landau et d'essayer de se concentrer sur ce qui se passe localement sur une frontière pour montrer que c'est la courbure qui intervient. Et donc, en soi, c'est encore un nouveau problème qui est intéressant, c'est simplement de se dire, voilà, je pars avec un faisceau de domaines, de parois de domaines, et ces domaines évoluent au cours du temps, et ils évoluent en ayant simplement une vitesse locale qui est donnée de cette manière. Alors, tout ce que je raconte là, ces parois de domaines et ces équations de Ginzburg-Landau, en fait, il y a l'équivalent dans le cas où la dynamique est conservative. Alors, les choses sont un peu plus... C'est-à-dire où le paramètre d'ordre est conservé. Alors, tout à l'heure, à l'instant, on vient de voir l'idée de regarder ce qui se passe pour une goutte. Alors, tout à l'heure, quand c'était non conservé, on avait dans la tête un champ phi qui vaut 1, et puis de l'autre côté, il valait moins 1, quand on va à l'infini. Alors, si je pars d'une situation de ce genre, la goutte ne va pas pouvoir grossir, parce que la goutte, pour qu'elle grossisse, il faut qu'il y ait des endroits où le phi... il va falloir... si phi égale moins 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de particules. C'est, par exemple, vide, et là, c'est plein. Mais si c'est vide très loin, bah, je ne vais pas pouvoir remplir ma goutte. Donc il faut que le paramètre d'ordre, quand je m'éloigne, ne tende pas vers une valeur qui est moins 1, mais qui tende vers quelque chose qui est proche de moins 1, mais il faut ici quelque chose qui est moins 1 plus epsilon. Donc il faut qu'il y ait un peu de particules dans l'autre phase pour qu'elle se déplace et puisse remplir cette goutte. Autrement, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière. Alors on peut le mettre dans des équations. Une des équations qui va généraliser l'équation de Ginzburg-Landau. Là encore, c'est assez expliqué assez en détail dans l'article d'Alan Bray. Je l'écris juste parce que je ne vais pas m'en servir beaucoup. C'est l'équation qui s'appelle de Kahn, le même Kahn, Hilliard, qui était surtout des gens qui ont regardé des problèmes de métallurgie. Et cette équation, c'est essentiellement comme l'équation de Ginzburg-Landau, sauf que assez souvent, quand il y a des quantités qui sont conservées, apparaissent des gradients supplémentaires. Donc c'est juste d'écrire que dφ sur dt égale laplacien de ce qu'il y a là-bas. Alors je crois que c'est φ3. Il y a un laplacien avec un signe. Moins laplacien. Bon, donc ça, c'est une équation qui est censée... Alors vous voyez, qui est censée décrire une situation où le paramètre d'ordre est conservé vous voyez par exemple que si vous intégrez phi, eh bien il va y avoir juste des termes de bord à cause du laplacien, et donc c'est juste ce qui rentre à l'intérieur et qui en sort. Il n'y a pas de création de phi à l'intérieur d'un domaine. Bon, je ne vais pas essayer de dériver ici. Ce que je vais simplement essayer de discuter, c'est un cas limite qui date des années 60 et qui s'appelle la théorie de Lifshitz-Lyousov-Wagner. Cette théorie de Lifshitz-Lyousov, en fait, elle correspond à essayer de se placer dans une situation plus simple, qui est la situation où il y a une des phases qui est très minoritaire. Donc dans une situation où il y a des gouttes et ces gouttes sont toutes petites. Donc c'est cette image. Et donc, au cours du temps, déjà, physiquement, ce qui se passe, c'est que ces gouttes vont grossir au cours du temps, petit à petit, mais la façon dont elles grossissent n'est pas totalement évident. Elles ne peuvent pas grossir, il faut qu'il y ait du transport de matière. Donc ce qui se passe, c'est que les petites gouttes vont diminuer, perdent des particules, ces particules vont diffuser à l'intérieur du milieu et vont être mangées par les grosses gouttes qui vont devenir de plus en plus grosses. Et puis, au cours du temps, celles qui étaient les grosses gouttes, certaines vont être plus petites que les autres. Donc, parmi les grosses gouttes, les plus petites vont elles-mêmes disparaître pour que les plus grosses des grosses grossissent encore, et ainsi de suite. Et donc, on a un phénomène au cours du temps où, à chaque instant, les plus petites sont en train de se rétrécir, les plus grosses sont en train de grandir, et il y a un phénomène comme ça, autosimilaire, c'est-à-dire qu'à chaque instant, on va voir des images qui correspondent un peu à ce que vous avez dans ce qui a été distribué, c'est-à-dire des images avec une certaine distribution de gouttes, et puis les petites gouttes disparaissent, les grandes gouttes grossissent, et celles qui étaient... il y a ce phénomène. Alors, le point, c'est une des questions qu'ont essayé de résoudre Lifshitz et Sulozov et Wagner, c'est de dire quelle est la distribution des tailles de gouttes. Donc, à un instant donné, il va y avoir une certaine densité ou un certain nombre de gouttes de rayon R. Et l'idée de rayon, bon, je l'ai appelé grand R dans mes notes, autant garder mes notes. Et donc, ce à quoi arrivent Lifshitz et Sulozov, en analysant ce qui se passe quand il y a une seule goutte avec un environnement où il y a une faible densité de particules de la phase pour que cette goutte augmente, eh bien, ils arrivent à dire que la vitesse d'augmentation de la taille d'une goutte est égale à sigma sur R, la taille de la goutte, fois 1 sur R critique qui dépend du temps, moins 1 sur R. Donc, ils ont une expression, je vais essayer de le commenter déjà d'où vient ce R critique, ils ont une expression qui leur dit comment la taille d'une goutte de taille R augmente au cours du temps, et il y a un certain RC de T qui intervient. Alors, le RC de T, il est assez facile à comprendre. C'est le rayon nécessaire pour que la goutte se mette à se développer. Vous voyez que si le rayon est plus petit, elle a tendance à diminuer. Si le rayon est plus grand que ce RC, eh bien, DR est positif, DR sur DT est positif, donc la goutte a tendance à augmenter. Et maintenant, on peut se dire, à un instant donné, quelle est la taille critique où ça ne fait ni augmenter ni diminuer. Alors, une façon d'y penser, c'est d'imaginer que vous avez un modèle comme le modèle d'Ising, et puis vous imaginez que vous avez une certaine goutte, et que cette goutte, elle aimerait bien se développer. Pourquoi elle aimerait bien se développer ? Parce que, imaginez que partout on ait une phase moins, que là il y a une phase plus, et que la raison pour laquelle elle a envie de se développer, c'est qu'on a mis un tout petit champ magnétique qui favorise la phase plus par rapport à la phase moins. Donc elle a envie de grossir. Alors là, je dis un champ magnétique, ou bien ce champ magnétique, c'est un peu l'équivalent de ce epsilon qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une phase qui est un peu favorisée par rapport à l'autre. Alors, s'il y a ce champ magnétique, on peut se dire qu'est-ce qu'on gagne quand on a une région de taille R ? Qu'est-ce qu'on gagne à avoir une petite région avec du champ magnétique ? Eh bien, au point de vue énergie ou énergie libre, on va gagner quelque chose qui est la surface ou le volume de cette... Il va y avoir le volume de cette goutte si on est en dimension 2, 3, ou la surface de cette goutte si on est en dimension 2. Donc ça va être quelque chose comme RD fois H. Mais maintenant, quand on a une goutte comme ça, on paye une énergie libre de la tension de surface. Et la tension de surface va coûter une certaine énergie qui est typiquement quelque chose comme la surface RD-1 sigma. Et donc, si le champ est assez fort, eh bien, c'est l'effet de volume qui va gagner. La goutte va avoir tendance à se développer. Si le champ et c'est pas assez fort, eh bien, la tension de surface va faire qu'il a envie de se rétracter. Donc, on trouve un R critique où les deux vont s'équilibrer. Dans un cas, si R est assez grand, c'est le premier terme qui va gagner. Dans le deuxième cas, on va vouloir minimiser l'énergie de surface, et donc c'est le deuxième qui va gagner. Et donc, il y a une espèce de rayon critique. Toujours est-il que l'évolution obtenue pour la taille de ces gouttes est donnée par une formule de ce genre. Et maintenant, la question, c'est si les gouttes qui ont un certain rayon R évoluent de cette manière, comment, qu'est-ce qu'on observe au bout d'un temps long? Quelle est la distribution des tailles des gouttes? Et ça, c'est ce qu'ont fait donc ces auteurs, Lifshitz, Joseph et Wagner, dans les années 60. Et une fois qu'ils ont la façon dont le rayon augmente, bien, ils écrivent une équation qui va donner comment cette distribution évolue au cours du temps, dn sur dt plus d sur dr de n de r. Donc c'est juste une convection de cette distribution, v de r. V de r, c'est cette quantité-là, égale 0. Et donc là, on a encore une fois un problème très simple. On peut se dire, on oublie complètement l'origine de toutes ces questions. On a une certaine distribution de taille de goutte. On les laisse évoluer de cette manière et on se pose la question, quelle est la distribution à laquelle on arrive au bout d'un temps long? Et donc, ils arrivent à une distribution qui est une distribution universelle. Et en fait, ce qui se passe, et ça, on va le revoir dans un petit moment, ce qui se passe, c'est qu'ils observent, ils écrivent ces équations. Donc, il y a le R de T, il est censé être calculé de façon à ce que le volume global de toutes les gouttes est constant. Ils arrivent à, en cherchant que le N de R... Donc, ils écrivent cette équation, ils essayent un R, N de R, qui est de la forme, une fonction de R sur RC de T, et ils arrivent à une équation sur le F, qui est un petit peu compliquée, mais pas si tant que ça. Mais en fait, cette équation, elle a pas une solution, elle a une famille à un paramètre de solution, et on va retomber là-dessus peut-être au moins une fois, peut-être deux fois si j'ai le temps tout à l'heure, une famille à deux paramètres, à un paramètre de solution, et en fait, il faut en choisir une particulière pour que les moments des gouttes augmentent. Et les autres, ils ne les prennent pas en compte, mais ils ne les prennent pas en compte, pourquoi? Parce qu'ils supposent qu'à l'instant initial, il n'y avait pas de très grosses gouttes. Mais si on prend les mêmes équations et qu'on imagine qu'initialement on pouvait avoir une distribution de gouttes avec une queue qui décroît en loi de puissance, eh bien on pourrait observer ces autres solutions. Et ça, on va le revoir tout à l'heure. Bon. Alors, il y a d'autres modèles de croissance qu'on peut considérer qui souvent sont des façons approchées de traiter cette équation de Ginzburg-Landau ou ces problèmes de dynamique de Glauber. Donc on peut les voir soit comme des modèles en soi, soit comme des versions approchées de ces problèmes. Donc une façon de traiter de manière approchée l'équation de Ginzburg-Landau, dont j'ai parlé tout à l'heure, dφ sur dt égale laplacien φ plus phi moins phi 3, ou bien on peut mettre un autre v de phi si on veut, une façon, ce qui serait facile, ça serait de dire j'ai un problème linéaire. Si c'est linéaire, on sait résoudre, même si la condition initiale est aléatoire. Et donc, il y a des approximations qui ont été proposées, par exemple, par Ota, Jasno et Kawasaki, qui consistent à dire essayons de résoudre une équation linéaire, M, laplacien de M plus M, juste l'équation linéarisée, et puis essayons de voir s'il y a une transformation non linéaire qui va faire que la solution... Donc essayons de voir si, par exemple, en choisissant, par exemple, phi égale, je ne sais pas, quelque chose comme ça, racine de 1 plus M carré, eh bien, ça ressemblerait pas à ce qu'on veut obtenir ici. Donc en fait, ça permet de résoudre un problème linéaire. Et après, bien sûr, si on fait juste ce changement de variable, c'est relativement facile de calculer les propriétés de cette équation. Mais évidemment, ça n'est qu'une approximation. Et quand vous faites ça, vous n'arrivez pas à avoir la solution explicite de ce problème. Mais malgré tout, le problème linéaire en soi est un problème intéressant. Il a comme propriété, par exemple, qu'on va pouvoir calculer, bien sûr, toutes ces corrélations, parce que l'aimantation au point X à l'instant T, ça va être quelque chose comme 1 sur, je ne sais pas si on est en dimension D, puis D puissance D, puis T puissance D sur 2, et puissance moins R moins S au carré sur T M, pardon, ça c'est au point R, si vous voulez, M au point S à l'instant 0. Bon, et si à l'instant 0, on connaît les statistiques de la condition initiale, bon, ben on pourra connaître les statistiques de M à l'instant T. Donc on peut par exemple calculer les fonctions de corrélation. Ça, c'est un problème linéaire, donc on peut calculer beaucoup de choses. Malgré tout, il y a des propriétés qui sont hautement, nettement plus difficiles, et en particulier des questions qui ont à voir avec des corrélations à beaucoup de points. Par exemple, si je veux me poser comme question, j'ai ma figure avec tous mes domaines, et je me pose la question, voilà, quelle est la probabilité qu'il y ait un segment entier qui soit à l'intérieur d'un domaine ? Alors ça fait intervenir des corrélations à beaucoup de points. Et même si c'est gaussien, ces corrélations à beaucoup de points ne sont pas forcément évidentes. Alors, là, je pose la question sous une forme spatiale, mais vous avez exactement la même question sous une forme temporelle. Sous une forme temporelle, vous pouvez vous poser la question, quelle est la probabilité que le champ en un point donné n'ait pas changé de signe au cours du temps ? Bien que ça soit une évolution gaussienne, quelle est la probabilité que le M soit resté tout le temps positif en un point ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la persistance. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles à calculer. Et même, il y a pas mal de questions ouvertes, même si on prend une évolution gaussienne comme ça. Alors, dans la dernière partie de cette séance aujourd'hui, je vais discuter des problèmes à une dimension et où vraiment l'idée de renormalisation va apparaître de la manière la plus claire. Je vais commencer par Landau-Ginzburg à 1D. Donc c'est d phi sur dt égale d2 phi sur dx2 plus phi moins phi 3. Et donc j'imaginais que je parte avec un phi qui est comme ça, quelconque. Ça représente un peu le mélange des deux phases. Et puis maintenant, j'imagine que ça va évoluer au cours du temps. Alors, ce n'est pas facile puisque l'équation est non linéaire. Mais à quoi je m'attends ? Eh bien, je m'attends à ce qu'au bout d'un temps long, il va y avoir des régions où le phi vaut 1, il y a des régions où le phi vaut moins 1, c'est la phase plus et la phase moins, ou la phase liquide et la phase gazeuse, si vous voulez. Et puis, il va y avoir comme ça des régions, des choses comme ça. Et comme au départ, c'était aléatoire, eh bien, les tailles de ces domaines vont être elles-mêmes variées. Il ne va pas y avoir une répartition régulière de ces domaines. Alors, tout à l'heure, on a vu que la taille des domaines dans Ginzburg-Landau évoluait de la forme dr sur dt égale quelque chose, je ne sais plus, c'était d moins 1 sur r ou quelque chose comme ça. Donc, bon, ici, on est en dimension 1. Donc, essentiellement, à ce niveau-là, les domaines, ils n'ont pas envie de bouger. Et en fait, les domaines, ils vont bouger très lentement. Parce que qu'est-ce qui va les faire bouger ? Eh bien, ils vont s'attirer. Par exemple, dans l'image que j'ai dessinée ici, eh bien, ce domaine va ressentir davantage, cette paroi de domaine va ressentir davantage cette autre paroi de domaine parce qu'il est plus près. Essentiellement, le profil va ressembler à une tangente hyperbolique ou quelque chose comme ça. Et donc, ici, on est très, très près de 1, mais on est près de 1 ici, mais ici, on en est beaucoup plus près, parce que les distances, essentiellement, les distances, il y a une convergence exponentielle. Donc ce qui va se passer, c'est que ces deux domaines vont se sentir beaucoup plus que ces deux-là. Et donc ces deux-là vont avoir tendance à collapser et ça va donner un domaine de plus en plus grand. Donc on va avoir un phénomène où les régions les plus courtes vont disparaître au cours du temps sans que les autres aient eu le temps de bouger. Et donc ça, ça conduit à un modèle qui s'appelle le modèle de... de Nagai et Kawasaki, qui date des années 86. Qui est le modèle suivant. Imaginez cette équation de Ginzburg-Landau. Et maintenant, vous avez votre système unidimensionnel. Et puis, vu à grande échelle, finalement, ces domaines vont apparaître essentiellement comme des points. Et donc, vous avez le long de l'axe un certain nombre de domaines de taille L1, L2, L3, L4. Et à cause de ce que je viens de dire, quelle est la dynamique ? Eh bien, la dynamique, c'est que les domaines les plus courts vont disparaître en premier, et beaucoup, beaucoup plus tôt, disons, comme les choses sont exponentielles dans la longueur, essentiellement quand un petit domaine va disparaître, c'est-à-dire que ces deux parois vont aller l'une vers l'autre, les autres, ils n'ont pas bougé. Et donc vous arrivez à une dynamique qui est très simple, conceptuellement, mais qui donne une certaine structure, qui consiste à dire, j'ai un axe très long avec des domaines comme ça. Et maintenant, la dynamique, c'est qu'à chaque instant, le domaine le plus court est supprimé. Et donc, ici, par exemple, le domaine le plus court, c'est L3. Donc, à l'instant suivant, eh bien, je vais garder ces points-là. Je vais les faire rendre réellement plus court. Je vais garder ces points-là. Donc, tous les domaines n'auront pas bougé, sauf que ces trois-là, ils auront coalescé pour donner un nouveau domaine. Et donc, vous avez une dynamique comme ça, qui a un problème mathématique assez simple. Vous avez une collection de longueurs. Vous avez mis des points, par exemple, vous pouvez mettre des points avec un processus de Poisson sur une droite. Et puis, vous faites évoluer cette dynamique. Vous prenez les deux points les plus proches et vous les effacez. Vous les effacez, ce n'est pas que vous enlevez le domaine, vous les effacez, donc vous avez des domaines de plus en plus grands, et donc vous allez avoir comme ça un système qui croît au cours du temps. Alors, si vous faites ça, bien, à chaque instant, il va y avoir... Vous avez une chaîne... très, très censé être infini, comme ça, un domaine infini, avec ces domaines, les uns à côté des autres, et chaque fois, le plus petit disparaît, et ça permet aux autres de grandir. C'est un peu la même image que dans les gouttes, sauf que mathématiquement, c'est quand même beaucoup plus tractable que de prendre en compte la diffusion des particules à l'intérieur d'une phase, etc. Mais bon. Donc, à un instant donné, vous avez un nombre ni d'intervalles, le nombre d'intervalles de longueur i, c'est le nombre d'intervalles de longueur i, et I0, c'est la longueur minimale de l'intervalle. Donc on est arrivé à un stade où tous les intervalles de taille plus petites que I0 ont déjà disparu. Donc il n'y a plus que des intervalles de taille plus grande que I0. Et donc, quand on va passer de I0 à I0 plus 1, c'est-à-dire, disons, vous avez votre longue liste, vous prenez tous les intervalles de longueur I0, et maintenant, enfin, on peut le faire dans le continu ou dans le discret, maintenant, vous regardez tous les intervalles de taille un tout petit peu plus grande, qu'est-ce qui leur arrive ? Et donc, le nombre d'intervalles quand vous êtes passé de I0 à I0 plus 1, eh bien, c'est le nombre d'intervalles de longueur I, mais qui n'ont pas été... donc je l'écris comme ça, je l'écris et puis je vais essayer de le commenter. Somme sur J égale I0 à I moins 2 I0 fois nj sur n, ni moins j moins 0 sur n. Donc, qu'est-ce qui fait que, quand j'aurai fait cette transformation, c'est-à-dire quand j'aurai augmenté la taille des intervalles de longueur minimum, qu'est-ce qui fait que je vais retrouver un intervalle de taille i? Bon, peut-être que ça va venir de la coalescence, donc il y aurait eu un intervalle de taille i0 en jeu, et puis les deux autres à côté qui auront fabriqué quelque chose de longueur i. Donc il y aura un de j, un de i moins j moins i0. Donc ça, c'est les intervalles qui ont été créés par ce processus. Et puis le premier terme, c'est ceux qui étaient déjà là, sauf que certains ont disparu. Et pourquoi ils ont disparu? Parce qu'ils étaient voisins d'un intervalle court et ils ont disparu. Donc ça, c'est ce qui permet... C'est une équation de... En fait, si vous voulez, on peut appeler ça une équation de réaction-diffusion qui permet de trouver la distribution d'intervalles au cours du temps. Au bout d'un temps long, on va observer une loi d'échelle, un peu comme on a vu précédemment, c'est-à-dire que la distribution des tailles de domaine va devenir invariante, ne va plus dépendre du temps, et on va observer quelque chose qui est, alors que je le prenne dans mes notes, qui est au bout d'un temps long, le nombre d'intervalles de longueur i va être de cette forme, grand n sur i, une fonction, pardon, grand n sur i0, une fonction de i sur i0. Et donc, ça, c'est une forme d'échelle asymptotique que l'on va observer. Et si on rentre ça dans ce genre d'équation, on trouve que la fonction d'échelle vérifie une équation que je vais écrire, qui est i0 d sur di0 de f égale f de x plus x f' de x plus θ de x moins 3 intégrale de 1 à x moins 2 f de y f de x moins y moins 1. Peu importe le détail de cette équation, on trouve que cette fonction évolue. Si on attend très longtemps, on va trouver une espèce de fonction d'échelle qui est solution de cette équation. Et la chose remarquable qu'avaient vue donc Nagai et Kawasaki, c'est que cette équation, on peut la résoudre en transformant de Laplace pour trouver la distribution de toutes les tailles. Et donc, on a une distribution stationnaire qui apparaît. Mais la chose un peu remarquable, et je vais peut-être écrire quelle est la solution, la chose un peu remarquable, c'est que comme dans le problème de Lifshitz-Yosef, eh bien, il ne trouve pas une solution, mais il trouve une famille à un paramètre de solution. Alors, si vous, ça, c'est l'équation pour cette fonction d'échelle des tailles des domaines, hein, dans ce modèle très simple. D'ailleurs, vous voyez que c'est un modèle, si vous aimez faire un petit calcul d'ordinateur, c'est très, très facile à simuler, parce que vous mettez des points sur la droite et puis vous éliminez à chaque étape le domaine le plus court. Donc, c'est vraiment très, très facile. Et donc, quand on passe à la transformée de Laplace, donc c'est un petit calcul qui est aussi assez facile à faire, eh bien, si vous prenez la transformée de Laplace, qui est donc définie comme ça, et puissance moins px f de x dx, pourquoi ça commence à 1? Parce qu'on a éliminé tous les domaines de longueur plus petite que i0. Donc, il n'y a rien en dessous, eh bien, vous trouvez que phi de p est égal à tangente hyperbolique de f de 1 intégrale de p à l'infini de e puissance moins t sur t dt. Et donc, le f de 1, c'est la valeur ici. Et donc, en fait, vous tombez pour ce problème simple, hein, encore une fois, c'est juste cette évolution, vous tombez sur une famille de solutions qui est paramétrée par un f de 1. Et en fait, de manière semblable au problème de Lifshitz-Yosef, en fait, tout ça, c'est des solutions. Vous pouvez prendre le f de 1 qui vous plaît, vous avez des solutions. Maintenant, vous pouvez vous dire laquelle est choisie. Et en fait, celle qui est choisie, c'est f de 1 égale 1/2. C'est celle qui a cette propriété que les moments de la distribution, c'est-à-dire la taille moyenne des domaines, va être finie. Tous les autres correspondent à une taille moyenne qui est infinie et qui correspondent à des situations physiques, enfin physiques possibles, c'est-à-dire dans le cadre du modèle, si au départ, j'avais, au lieu de prendre des domaines qui ont tous à peu près la même taille qui fluctuent, j'avais autorisé des domaines assez grands. Par exemple, je dis, si initialement, je considérais des domaines dont la probabilité décroît avec une loi de puissance. Donc ça autorise des domaines assez grands. Eh bien, si je mets une certaine loi de puissance ici, je vais retrouver la loi d'échelle qui correspond, qui va dépendre de cette loi de puissance. Et le F de 1, il est relié au alpha qui est là-bas. Bon, donc ça, c'est un des problèmes. Une des propriétés de ce problème. Alors, il y a d'autres propriétés qu'on avait étudiées avec Claude Godrèche à un certain moment et avec Alain Bray, qui correspondent à se poser d'autres questions pour ces problèmes. Par exemple, la fonction d'autocorrélation. Donc, vous partez initialement avec ces domaines, et puis vous appliquez la règle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque instant, vous prenez le plus petit, bon, voilà, le plus petit, et vous retournez les spins à l'intérieur. Et donc maintenant, vous pouvez vous poser la question, prenons un endroit ici, comment la couleur de cet endroit, ou le signe de cet endroit, hein, puisque c'est des domaines qui valent plus, moins, etc. Donc, comment le signe de la condition initiale est corrélé au signe que j'aurai à un instant T donné. Alors, il est possible qu'il ne soit pas retourné, il soit retourné une fois, deux fois, etc. Enfin, donc le signe est corrélé. Et donc, pour cette fonction d'autocorrélation, pour des questions de persistance, la persistance, ce serait de dire quelle est la probabilité que ce spin n'ait jamais changé de signe. Eh bien, on trouve des exposants qu'on peut calculer explicitement, mais par exemple, je vous donne pour la fonction d'autocorrélation, eh bien, la valeur du spin à l'instant 0 fois le spin à l'instant. Alors, au lieu de parler de l'instant, je dis au moment I0, c'est-à-dire quand la taille des domaines sera d'ordre I0. Donc, 0, c'est le temps, et au lieu de paramétrer les choses avec le temps, je les paramètre avec la taille des plus petits domaines à cet instant-là. Et donc, c'est donné par I0 puissance 1 moins lambda, lambda moins 1. Et le lambda, c'est solution d'une équation intégrale compliquée, 3, 8, 5. En fait, avec Alain Bray, on s'était amusé à savoir qui pouvait trouver le plus de chiffres là-dessus, parce que c'est juste de résoudre une équation intégrale. Et donc, ça donne des exposants qui sont non triviaux pour un problème assez simple. Alors, cette idée, en fait, d'éliminer les domaines, elle apparaît dans beaucoup de contextes. Et en fait, dans un des tout premiers articles sur la renormalisation, dont j'essaierai peut-être de parler la prochaine fois, je ne suis pas absolument sûr d'en avoir le temps, mais c'est un modèle qui a été étudié par Yuval Anderson dans les années 71. C'est un des tout premiers papiers qui introduit la renormalisation, et il s'était intéressé à un modèle d'Ising à une dimension avec des interactions en 1 sur R carré. Donc, prenez Ising à 1D avec des interactions. Donc, ça veut dire que les couplages, c'est A sur I moins J au carré sigma SISJ. Et donc, si je regarde une configuration du système à basse température, il va y avoir des régions avec des spins plus et des régions avec des spins moins. Et ce qu'ils avaient fait, c'est une renormalisation où, à chaque étape, il prenait les plus petits domaines et il les retourne. Et en faisant ça, ça modifie les interactions entre les spins qui restent, donc je vais essayer de le traiter. En fait, ce qui se passe là, c'est très semblable à ce qui se passe aussi dans la transition de Kosterlitz-Saulès, donc je n'ai pas encore décidé si je vais parler de ce problème-là ou de la transition de Kosterlitz-Saulès, mais chaque fois, on élimine les plus petits domaines ou on élimine les paires les plus proches dans le modèle de Kosterlitz-Saulès. Il y a la même chose puisque pour le modèle de Poland-Sheraga, on peut traiter ce modèle de Poland-Sheraga de la même manière. Alors, le modèle de Poland-Sheraga, c'est un modèle soit de pinning, soit c'est un modèle de dénaturation de l'ADN. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a deux brins d'ADN et que ces brins d'ADN, il y a une transition de dénaturation où les deux molécules sont l'une face à l'autre, et puis quand on change la température ou les conditions chimiques, elles vont avoir tendance à se détacher. Et donc, si on veut comprendre les fluctuations, eh bien, il va y avoir une suite de régions liées, comme ça, et puis des bulles entre les deux. Et donc, une façon de traiter ce problème de Poland-Sheraga, c'est de faire une renormalisation qui va consister à dire à chaque pas de temps, j'élimine, je prends les configurations et je mappe ça sur un autre problème où les configurations que j'ai éliminées, les plus petites boucles, deviennent les nouvelles configurations et ainsi de suite. Donc cette idée, et je suis à peu près persuadé que dans deux semaines, il y aura ce séminaire de Cécile Montu, où aussi cette idée va réapparaître à plusieurs reprises, c'est qu'on élimine certaines régions par renormalisation, ça permet soit de calculer des comportements critiques, soit de calculer des lois universelles. Donc c'est quelque chose d'assez général. Bon. Alors, pour terminer, en fait, je voudrais vous dire qu'il y a des cas où on peut résoudre ce problème de Glauber complètement. Alors, je vais en citer deux. Le premier, c'est à deux dimensions. Alors, donc, en fait, je vais me placer dans un cas particulier où la dynamique de Glauber est faite à température zéro et où il y a un seul interface. Un exemple, c'est imaginez que j'ai le modèle de Glauber, la dynamique de Glauber, avec ici, par exemple, toute la phase plus. Bon, c'est la phase plus. Et là, il y a la phase moins. Et à l'instant initial, je pars avec un coin. Donc ça, c'est une possibilité. Il y en a une autre qui est, au lieu de dire je pars avec cette condition initiale, je prends une interface qui a une forme, la forme qui me plaît, quelconque, mais il n'y a qu'une interface et je veux regarder son évolution. Alors la dynamique de Glauber, elle me dit si je prends un spin, si la majorité de ses voisins pointent dans une direction, ils pointent forcément dans cette direction. S'il y a autant de voisins qui sont plus que moi, autant de moins que de plus parmi ses voisins, eh bien, il peut se retourner librement comme il veut. Donc, dans cette géométrie, le seul qui peut se retourner, c'est celui qui est là. Alors, une fois qu'il s'est retourné, on va avoir une interface plus compliquée, et puis il y en aura plusieurs qui vont pouvoir se retourner. Donc, si à un instant donné, j'ai une interface qui a une forme comme ça, voilà les spins qui peuvent se retourner, c'est ceux des coins. Et donc, les coins peuvent se retourner ou ne pas se retourner, comme il le souhaite, et ça va faire évoluer l'interface. Et donc, si à grande échelle, j'avais une interface qui avait une forme, eh bien cette forme va évoluer au cours du temps, et je peux me poser la question de comment ça évolue. Alors, cette question, on peut la résoudre complètement pour une forme d'interface quelconque. Et la raison en est simple, c'est que si je tourne un peu le point de vue, c'est-à-dire je fais une rotation de 45 degrés, je vais avoir une interface qui va avoir des formes de ce genre. Et donc les coins sont là. Et ça, ceux qui ont assisté au problème d'exclusion, ils vont reconnaître des modèles de croissance qui ont été étudiés. Et donc si je définis pour chaque verticale, une variable SI qui vaut plus 1 quand ça monte et moins 1 quand ça descend, ou l'inverse, peu importe, je vais arriver au fait que DSI sur DT, Donc SI, c'est juste la pente. C'est SI égale plus 1, ça c'est SI égale moins 1. Je vais arriver à DSI sur DT égale SI plus 1 plus SI moins 1 moins 2SI. Donc la pente locale, cette équation, elle est exacte. Il n'y a pas d'approximation. Bon, à grande échelle, ça va être une équation de diffusion. Donc la pente locale diffuse. Bon, si je sais la façon dont la pente d'une fonction diffuse, je vais pouvoir décrire la façon dont la fonction elle-même diffuse. Et donc, si je prends par exemple cette forme initiale, au bout d'un certain temps, je vais trouver quelque chose qui est comme ça, et on peut calculer la forme de cette courbe. C'est une fonction erreur, et on peut voir en particulier aussi que cette distance est en racine de t, exactement comme on l'a prévu dans le cas de ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cas d'un paramètre d'ordre qui n'est pas conservé. Donc ça, c'est un exemple qui peut se calculer entièrement la forme de ces interfaces. S'il y a plusieurs interfaces, l'affaire est plus compliquée parce que ces interfaces vont pouvoir... Si j'en mettais un autre ici, eh bien, ils peuvent éventuellement... se rejoindre, et puis les choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais s'il n'y en a qu'un, on peut le faire. Peut-être qu'en faisant attention, on peut en faire quand il y en a deux, trois, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Donc ça, c'est un cas particulier qu'on peut résoudre. Mais, donc on peut vraiment décrire la forme précise de l'interface. Il y a un autre cas particulier qu'on peut résoudre, qui est le cas à une dimension, qui est assez intéressant aussi, parce que là encore, on va retrouver une certaine universalité. Donc si on prend la dynamique de Glauber à une dimension, on peut le faire à toute température, mais je vais le faire à température zéro. Et vous avez vos spins, dizzy, ou bien vous pouvez prendre un modèle de Potts. D'ailleurs, le calcul est encore un peu plus facile dans le cadre du modèle de Potts. Et vous... La dynamique d'un spin, c'est de dire, voilà, si les voisins, si j'ai un spin dont les deux voisins sont plus, eh bien, il est obligé de pointer dans la direction plus. Donc, si j'actualise un spin dont les voisins sont tous les deux de même signe, ce spin va prendre le signe de ses voisins. Par contre, si un spin a un voisin d'un signe et un voisin de l'autre, il va pouvoir bouger. Donc, il va pouvoir se retourner. Et petit à petit, il va pouvoir se retourner. Donc, par exemple, celui-là va pouvoir se retourner. Un peu plus tard, celui-là va pouvoir se retourner. Et donc, les domaines vont croître. Il va y avoir de moins en moins de frontières. Alors, une des questions, c'est est-ce qu'on peut calculer des choses avec ça ? Alors, la réponse est oui, parce que ce modèle unidimensionnel est très simple et il correspond à ce qu'on appelle des modèles de Votan. Alors, si vous imaginez cette dynamique de Glauber, bon, un spin qui a ses deux voisins du même signe, il prend le signe de ses voisins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? Le modèle de votant, c'est de dire qu'est-ce que je vais voter aux prochaines élections ? Je regarde mes deux voisins, je leur dis qu'est-ce que vous pensez ? S'ils sont tous les deux d'accord, j'adopte leur opinion. S'il y a des accords entre les deux, bah, je choisis au hasard parce que je... J'ai pas de préférence entre les deux. Donc le modèle de Votan, c'est simplement que le spin, un spin, quand il est actualisé, eh bien, il décide de choisir l'opinion d'un de ses voisins. Si les deux sont d'accord, il choisit l'opinion de la majorité. Si ils sont en désaccord, il choisit avec probabilité 1/2. Donc si je fais un dessin au cours du temps, ici c'est l'instant t égale 0, ici c'est l'instant t. Et je me pose la question de que vaut le spin au point I. Alors, le spin au point I, bah, bon, pendant un certain temps, il a gardé son opinion parce qu'on ne lui a pas proposé de changer son opinion. Et puis, à un certain moment, on l'a actualisé. Donc, hein, je remonte dans le passé. À un certain moment du passé, il a été actualisé et il a adopté l'opinion de son voisin de droite, par exemple. Et puis, je remonte. Il a adopté l'opinion de son voisin de droite et après de gauche. Enfin, la droite et la gauche n'ont aucune couleur politique ici, hein, c'est juste le dessin. Et donc, il monte comme ça. Et donc, la valeur qu'il aura à l'instant T, et la valeur qu'il y avait initialement. Et ici, j'ai une espèce de marche au hasard qui me relie la valeur à l'instant t à la valeur initiale. Et maintenant, si je m'intéresse à calculer des corrélations, je vais prendre un autre spin. Lui aussi, il aura adopté des opinions de ses voisins. Et dans certains cas, il va aboutir à une autre valeur initiale. Donc, en fait, essentiellement là, dans le cas que j'ai dessiné, il n'y aura pas de corrélation. Ou bien, il peut avoir adopté l'opinion de ses voisins et puis que les deux chemins se soient rejoints quelque part. Et donc, si les deux chemins se rejoignent, eh bien, ils vont avoir leur opinion corrélée. Et donc, plus j'attends longtemps, plus la chance que deux sites aient des marches au hasard qui partent donc vers le passé pour relier la valeur du spin à l'instant t à la valeur initiale, ont de chances de se rencontrer, donc ce qui va faire que les spins ont de plus en plus de chances de prendre des valeurs égales, et donc ça correspond à une croissance de domaine qu'on peut calculer complètement, qui a encore ses propriétés, qu'il n'y en a pas qu'une, qu'il y en a toute une famille, et cette famille, elle correspond à savoir ce que j'ai mis dans la condition initiale. Si dans ma condition initiale, j'ai mis des choses qui ont peu de corrélation, je vais tomber sur une famille particulière. Si j'autorise des grands domaines dans la condition initiale, je vais trouver toute une famille de lois limites. Voilà, je vais vous m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup.